Bon, d'abord, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, je m'appelle Paul Lotens, je suis secrétaire fédéral à la Centrale Générale FGTB. Et en tant que responsable syndical, j'ai en charge la chimie et le pétrole. Et je suis aussi actif au niveau international, entre autres dans le cadre de l'ICEM et dans des projets bilatéraux. Et on a fait un projet bilatéral avec des partenaires en Colombie.
Oui, donc tu reviens d'un voyage en Colombie. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel cadre ce voyage de syndicaliste s'est réalisé?
Oui, donc effectivement, on a fait un projet syndical d'aide aux syndicalistes colombiens sur le thème des droits humains et plus particulièrement dans le secteur de l'énergie. C'est un projet de 3 ans, 2003, 2004, 2005, et la coopération au développement belge nous a imposé de faire un séminaire de planification sur place avec notre partenaire, ce qu'on a fait au début du mois de septembre cette année-ci.
Et donc tu t'es rendu là-bas, et moi ce qui m'intéresse, c'est essentiellement ton témoignage sur la situation, notamment des syndicalistes du secteur pétrolier en Colombie.
Oui, donc effectivement, j'ai été une semaine à Bogota et puis 2, 3 jours à Barrancabermeja, qui est le port pétrolier. Et c'est là que je peux témoigner en imaginant un petit peu la vie d'un ouvrier syndicaliste d'Ecopétrol. Il faut savoir d'abord que Ecopétrol est une société d'État qui existe depuis 1948, dans laquelle les activités pétrolières du pays sont concentrées. À côté de cela, depuis un certain temps, il y a les multinationales qui exploitent directement le pétrole là-bas en Colombie. Mais bon, la société étatique continue à exister sous le nom d'Ecopétrol. Alors, comme ouvrier d'Ecopétrol, je me rends à la raffinerie de Barranca tous les jours au matin. Il y a 4 000 ouvriers qui travaillent dans cette raffinerie. C'est une gigantesque raffinerie à Barranca. Et à 5 h au matin commence un meeting syndical, parce qu'il y en a un tous les jours, depuis quelques mois maintenant, parce qu'il y a un conflit depuis 10 mois avec la direction d'Ecopétrol sur le renouvellement de la convention collective. En fait, quand on a introduit les revendications au début de l'année, la direction a purement et simplement ignoré les revendications et refusé d'en discuter. Il y a eu des assemblées, des actions, des manifestations pendant plusieurs mois, mais ça n'a pas débloqué la situation. Et après un certain temps, le conflit est vraiment venu à son apogée lors d'un lockout pendant un mois. Après le lockout et intervention avec le ministre de l'Emploi et du Travail, il y a quand même eu des dialogues qui se sont installés. Et donc il y a eu une négociation, mais la reprise du travail s'est faite sous certaines conditions qui étaient mauvaises pour nous. On a eu 14 délégués qui ont été licenciés. Il y en a 40 autres qui ont été placés de force dans un local où ils doivent suivre une formation individuelle pour améliorer leurs compétences et améliorer leur attitude au travail. Et donc c'est vraiment ce qu'on appelle du mobbing syndical. Ils sont isolés de leurs camarades de travail. Ils ont un psychologue qui leur donne des cours, qui les suit à longueur de journée. Et il y a 700 ouvriers, comme moi d'ailleurs, qui ont reçu une lettre d'avertissement comme quoi ils seraient licenciés s'ils continuaient à participer à des actions syndicales. Maintenant, il faut savoir que contre ça, en tant que syndicat, on continue à réagir, on fait un tract tous les jours, on fait un meeting tous les jours. Mais quand on rentre dans l'usine, la première chose qu'on voit en ayant franchi la grille, c'est un peloton de l'armée qui est là avec bouclier, casque, fusil, parce qu'il y a une implantation de l'armée, de l'État, à l'intérieur même de la raffinerie, et ils contrôlent tous les accès de l'entreprise. Dans tous les bâtiments de l'entreprise Ecopetrol à Barranca, il y a chaque fois 2 soldats armés qui gardent les entrées de chaque bâtiment. Ils ont des micros installés dans toutes les salles de réunion et autres, et donc tout est surveillé en permanence. Mais nous, ça ne nous empêche pas, en tant que syndicalistes, à faire le meeting à la porte, à distribuer des tracts et à essayer d'organiser les travailleurs sur le site même. Et donc plus concrètement, quand on se rend dans le local soi-disant de formation pour améliorer le comportement et les compétences dans lesquelles sont isolés les 40 syndicalistes, ben, ils y sont tous les 40 avec un t-shirt de la Ouzo flambant rouge, non à la répression syndicale. Ils s'organisent entre eux pour chanter, pour essayer de résister, mais ils prennent un gros risque parce que la direction a annoncé qui serait évalué de semaine en semaine et qu'une évaluation négative correspondait à une rupture de contrat unilatérale de leur part. parce qu'il ne rentrerait plus dans le cadre de l'organisation, de la nécessité de l'usine, etc. Et donc c'est en permanence un climat d'attaque contre les organisations syndicales dans l'usine, mais aussi à l'extérieur.
Oui, Barranca Bermeja, donc centre pétrolier de la Colombie, est victime, disons, de... La population est victime depuis plusieurs années d'un processus de paramilitarisation. Donc les paramilitaires ont pris le contrôle de la ville avec les militaires, disons, parce qu'il y a plein de bases militaires autour, ils le font ensemble. Tu peux un peu expliquer justement dans quelle situation se trouve la population hors de la raffinerie aussi?
Oui, donc en dehors de la raffinerie, on a eu l'occasion de visiter les barrios autour du centre, où effectivement les paramilitaires sont, oui, sont les maîtres, d'une certaine façon. Alors, première chose, nous, en tant que visiteurs étrangers, on est encadrés par des gardes du corps qui doivent porter des mitraillettes, qui doivent avoir des vestes pare-balles, qui doivent avoir des voitures blindées pour nous transporter. Parce que 15 jours auparavant, le responsable local de la Confédération syndicale a été mitraillé dans sa voiture. Et ça peut arriver à tout moment, n'importe où. Et donc, il faut prendre une série de mesures de précaution, surtout vis-à-vis des syndicalistes, parce que c'est ceux-là qui sont visés en premier lieu. Alors, nous, on a fait la visite des barrios avec une organisation de femmes qui, dans les 5 quartiers, a implanté chaque fois une maison sociale, communautaire, dans laquelle...
C'est l'organisation féminine populaire.
C'est ça, c'est l'organisation féminine populaire de Barranca, qui, dans ces maisons, fait un genre de cuisine communautaire où les familles peuvent venir à bon marché acheter de la nourriture tous les jours, mais dans laquelle ils organisent surtout des ateliers de couture, des ateliers de toutes sortes d'activités, des ateliers de discussion, etc. Et puis c'est sous le slogan « Non à la guerre » et ils interdisent l'accès à tout homme ou femme armé dans leurs locaux qui sont parfois détruits, mis à feu, etc. Mais ils tiennent le coup, ils sont vraiment formidables. Et c'est vrai que pendant qu'on était là, on voyait les paramilitaires qui étaient en face avec le revolver dans la ceinture, qui surveillaient ce qui se passe. Et il y a vraiment une répression ou un climat de terreur de la part des paramilitaires à Barranca qui est assez frappante. Que l'armée y participe, ça, on n'a pas su le voir tout de suite directement. Par contre, j'ai été témoin d'une rafle à Barranca. Le dernier soir où on était là, nous, on était au restaurant. Imagine, le restaurant, c'était une terrasse avec une grillade. Et puis, de derrière le coin, est arrivée l'armée en rang. 4 soldats en rang, un sur le trottoir, un dans l'égout, un au milieu de la rue et un sur l'autre trottoir. 5 mètres après, une deuxième rangée et 30 rangées de soldats comme ça. En armes, qui avancent au pas militaire et qu'on contrôle tout le monde. D'ailleurs, la vie se fige au moment où ils apparaissent, parce qu'ils ont comme mot d'ordre, s'ils voient quelqu'un qui s'en court, c'est qu'il a quelque chose à cacher, donc on tire dessus. Et donc plus personne ne bouge et tous les gens dans la rue passent à la fouille. Et le lendemain, on a appris qu'il y avait eu 122 arrestations et que les avocats cherchaient à savoir qui c'était, où ils étaient, ce qu'ils étaient devenus, de quoi ils étaient accusés, et pourquoi on les avait arrêtés. Mais donc il y a vraiment un climat de militarisation et de répression militaire vis-à-vis de la population, alors que les paramilitaires se promènent librement et qu'on les voit et qu'à eux, on ne leur fait rien, manifestement.
Il n'y a pas une petite odeur de fascisme dans tout ça?
Je ne sais pas, j'ai jamais été dans un pays vraiment fasciste, mais pour moi ça faisait plus penser au Chili de Pinochet qu'à une soi-disant démocratie. C'est clair que c'est un régime tout à fait répressif et militarisé et que c'est très proche du fascisme. D'ailleurs, un des points qui m'a frappé pendant que j'étais là, c'est que Uribe a déclaré qu'il n'avait pas le contrôle des ouvriers dans les usines et qu'ils allaient recruter 1 million d'informateurs dans les usines qui, contre paiement, devaient dénoncer l'activité des terroristes. Ce qui veut en fait dire que chacun qui va résister d'une façon ou d'une autre, et certainement chaque syndicaliste, risque d'être dénoncé demain par des collègues ou par des travailleurs qui, pour le gain du bénéfice, parce qu'ils ont des problèmes de pauvreté, parce qu'ils sont mis sous pression, risquent de dénoncer n'importe qui, n'importe quand. Et ça, c'est vraiment le fascisme dans son état le plus pur, évidemment.
Tu as été dans d'autres endroits de Colombie, peut-être est-ce que tu peux nous parler globalement de la situation syndicale, pas seulement de la USO? Est-ce que tu as rencontré d'autres syndicalistes et...
Mais je n'ai pas été à beaucoup d'endroits, sauf Bogota et Barranca, mais à Bogota j'ai assisté au procès d'Hernando Hernández. Maintenant, Hernando est un dirigeant de la USO qui est accusé de rébellion. qui était président de la OUSO jusqu'au mois de mai l'année passée. Son nom est apparu sur la liste des paramilitaires comme quelqu'un à abattre, parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas. Et on a organisé son évacuation vers Cuba avec le soutien des syndicats belges, suisses, français et allemands qui ont financé le voyage pour lui et sa famille. Et on a pris Cuba parce qu'il a le cancer et qu'il fallait le soigner et qu'il fallait trouver un pays où ce n'était pas trop onéreux pour pouvoir le faire. Et c'est ce séjour-là à Cuba qui est un des arguments clés dans son procès pour l'accuser de rébellion, parce que c'est la preuve qu'il est allé suivre un entraînement ou qu'il a eu des contacts avec des révolutionnaires à Cuba. C'est vraiment assez frappant. Et au procès, dans ce climat de militarisation, il y avait toutes les organisations sociales, populaires, les ONG, les gens de l'Église qui étaient présentes, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. Et la discussion portait surtout sur la déclaration de guerre de Uribe contre les ONG. Parce que le lundi où moi je suis arrivé, le 8 septembre, les ONG organisaient une semaine pour la paix. Et à cette occasion-là, publiaient un livre sur un an de gouvernement de Uribe sous le titre « L'embrouille autoritaire »,« Embrouillo autoritario ». Et donc c'était rendu public dans la presse, etc. Et le soir même, Uribe a fait une déclaration contre les ONG, en disant « Sur les ONG, il y en a trois sortes. Il y a les bons, c'est ceux qui viennent discuter avec moi sans qu'on les appelle. » Il y a les marchands des droits de l'homme qui ne le font que pour se financer eux-mêmes et pour se faire voir au niveau international, mais ils ne décrivent pas la réalité. C'est des intellectuels qui sont tout à fait coupés de la réalité. Et puis il y a la troisième sorte des ONG, c'est ceux qui sont soutenus par les terroristes et dans lesquels les terroristes se cachent eux-mêmes, et ceux-là, il faut les éliminer. Et avec cette troisième catégorie, il visait manifestement ceux qui ont écrit le livre. Il l'a laissé sous-entendre comme ça. Et il a ordonné à la ministre de la Justice de faire un classement de toutes les ONG. Donc ils vont faire une enquête sur chacune des ONG et vont publier la liste de celles qui sont bons, de celles qui sont les marchands et les intellectuels, et de celles qui sont terroristes et qu'il faut éliminer. Et donc tous ceux qui travaillent pour les ONG, qu'ils soient colombiens ou étrangers, savent qu'ils courent un risque, surtout s'ils sont sur le thème des droits humains et des droits de l'homme, qui est justement celui par lequel nous on travaille dans notre projet. Et donc, si on ajoute ça à la militarisation, on voit bien quel climat se crée en Colombie, que tout travail pour faire respecter les conventions internationales du travail, les conventions internationales des droits de l'homme, va devenir de plus en plus impossible.
Et comment tu vois la couverture médiatique justement d'affaires comme les kidnappings là? Il y a plus ou moins 3000 kidnappés en Colombie. On parle beaucoup de Betancourt et tous ces comités ici. Mais comment est-ce que tu vois ça, ce phénomène qui est une conséquence de la guerre, par rapport à justement tout ce qui se passe au niveau des syndicalistes, des indigènes, du mouvement paysan, tout ça, dont on parle beaucoup moins dans la presse, ça c'est clair. Comment est-ce que tu analyses ça?
Mais je dois dire que je suis assez interloqué à ce niveau-là pour deux raisons. D'abord, la technique même des kidnappings, qu'elle soit faite par les uns ou par les autres, elle est tout à fait condamnable et donc on ne peut pas l'accepter. Ça, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Mais quel est le degré d'importance d'une activité et d'une autre quand on sait qu'effectivement les défenseurs des droits de l'homme et les syndicalistes sont assassinés à longueur de journée? Jusque maintenant, je n'ai pas donné de chiffres, mais il y en a eu 200 en 2001 et environ 200 en 2002 de syndicalistes qui ont été assassinés. Il y en a déjà eu 50 cette année-ci. Il y a des kidnappings aussi de syndicalistes et de travailleurs. Et ça apparaît très peu dans la presse. On fait effectivement grand cas du kidnapping d'Ingrid Betancourt, et je pense que c'est juste de ne pas se taire là-dessus. Mais d'un autre côté, ne rien dire sur toutes les autres violations, ou presque de considérer que c'est devenu normal dans un état soi-disant de guerre en Colombie, c'est tout à fait unilatéral, et j'ai très difficile, et surtout après avoir été sur place, de constater que ce message-là, de décrire la situation des syndicalistes, de décrire la situation des droits de l'homme, de décrire la situation des ONG, qu'on n'arrive pas à le faire passer au niveau de la presse, ou très peu au niveau de la presse. C'est pas là-dessus qu'on fait les choux gras au niveau de la presse, alors que c'est la vie de la population de tous les jours, dans lequel effectivement les événements font une partie ou un aspect du problème, mais pas le seul, et qu'il est certainement exagéré de le mettre unilatéralement en avant.